Bonsoir, comment allez-vous mes chéris? Au soir du grand soir, veille du grand jour. Je voudrais vous raconter une histoire qu'Eric Orsena m'a racontée cet été. Non Eliane, je n'étais pas chez lui, c'est lui qui était chez moi. Au petit déjeuner, il nous parlait de son copain, Jean de La Fontaine. Un jour, il nous a raconté l'histoire de l'insomniaque qui ne s'endormait qu'au petit matin. Pile au moment où son voisin se mettait à bosser et à chanter à tue-tête. Alors l'insomniaque, qui est financier de métier, a eu une idée. Il est allé voir son cordonnier de voisin et il lui a demandé combien il gagnait par an. Ça, le cordonnier ne savait pas du tout. Il vivait au jour le jour, les bons compensant les mauvais, et puis ça allait bien comme ça. Le financier lui répond que ce n'est pas raisonnable. Et il lui donne une belle somme, pour pouvoir tenir en cas de malheur. Cool ! L'artisan n'avait jamais vu autant d'argent de sa vie. Et il part l'enterrer dans sa cave. Les jours, et surtout les nuits suivantes, il se met à guetter le moindre bruit. Une souris passe et il craint que ce ne soit un voleur. Du coup, il ne dort plus et ne chante plus. Cette histoire a une suite, demandez-la à Orsena ou à La Fontaine. Mais ce que je voulais vous dire, mes chéris, c'est qu'aussi bien le savetier, le cordonnier, que le financier, leur métier, ils l'ont appris. Bonne rentrée.
Bonjour, je m'appelle Tanguy, j'ai 10 ans et demi. Je voudrais savoir pourquoi l'instruction est obligatoire jusqu'à 16 ans et pourquoi pas moi.
Tanguy, bonsoir d'abord. C'est l'historien Antoine Pro qui va te répondre. Tanguy demande pourquoi pas moins de 16 ans.
Oui, bonjour Tanguy. Mais la question que tu poses est une question tout à fait évolutive. Parce que l'âge auquel les enfants doivent aller à l'école, il a beaucoup changé et il s'est beaucoup étendu. À l'époque où Jules Ferry rend l'école obligatoire, en principe pour tous les enfants, c'est de 6 à 13 ans. C'est le temps qui est jugé nécessaire pour, en gros, avoir appris tout ce qu'il n'est pas permis d'ignorer, ce qui est essentiel pour se débrouiller dans la vie. Mais à l'époque de Jules Ferry, la fréquentation réelle de l'école, c'est 8-10 ans, 8-11 ans. Parce que les petits, souvent, l'école est loin. Et puis et les grands, souvent, ils sont très utiles. Donc, on part d'une scolarité qui est de 3 ans, 4 ans, 5 ans. En 1936, on passe à 14 ans. Et puis, en 1959... on passe à 16 ans.
Alors pourquoi... Ce fameux certif, Antoine Pro,
oui.
C'était 12 ans.
C'était 12 ans, 13 ans, mais le certif n'intéressait, à l'époque du Front Populaire, qu'une petite moitié de la population scolaire. Tous les enfants ne passaient pas le certificat d'études. Bon, alors la question c'est, pourquoi est-ce que la scolarité s'est allongée? Alors, la scolarité s'est allongée parce que la société est devenue plus riche, parce qu'elle s'est modernisée, qu'on a eu moins besoin du travail des enfants, et qu'on a eu besoin... pour travailler, de savoir beaucoup plus de choses. Donc le niveau d'éducation nécessaire pour se débrouiller dans la vie s'est augmenté. L'obligation scolaire légale, c'est jusqu'à 16 ans, mais dans la réalité, pratiquement aujourd'hui, l'immense majorité des adolescents vont à l'école jusqu'à 18 ans. Et ça, c'est une évolution sociale. Et donc, il ne faut pas prendre les âges comme des barrières absolues. Un peu avant la guerre de 1914, en principe, le travail des enfants est interdit en dessous de 12 ans. Et l'école est obligatoire jusqu'à 13 ans, ce qui est déjà une contradiction.
Oui. Parce que, qu'est-ce qu'ils font de 12 à 13 ?
Qu'est-ce qu'ils font de 12 à 13 ? Mais moi, j'ai entendu il y a très longtemps un vieux monsieur qui était employé dans une verrerie et qui racontait comment un gamin, à 10 ans, il travaillait dans cette verrerie et comment, quand l'inspection du travail est venue inspecter l'usine pour voir ce qu'elle faisait du point de vue du travail des enfants, on l'a mis dans un tonneau vide, on a mis un couvercle sur le tonneau, l'inspecteur a fait son inspection, puis une fois que l'inspecteur a été parti, on a enlevé le couvercle et l'enfant de 10 ans qui travaillait dans l'usine, il est sorti et il a continué à travailler.
Mais ça, c'était en France.
C'était en France et l'obligation scolaire était à 13 ans. Les obligations légales sont toujours plus ou moins respectées. Il faut savoir qu'en 1911, 10% des ressources des familles ouvrières viennent du travail des enfants.
C'est intéressant, hein, 1911, ce n'est pas si vieux. L'historien Antoine Prot a écrit « Du changement dans l'école, les réformes de l'éducation de 1936 à nos jours ». C'est édité au Seuil et ça sortira le 25 novembre. Mais vous pouvez déjà lire « Les politiques de l'éducation en France », édité à la Documentation française. Ce livre est sorti en 2014. Il y a une nouvelle édition qui sortira dans un mois. En ce moment, il pleut pas mal. Enfin, ça dépend des régions. En tout cas, chez nous, il a pas mal plu. Et quand il pleut, qu'est-ce qui sort ?
Bonjour, je m'appelle Eva et j'ai 10 ans. Je voudrais savoir, si on trouve un escargot dont la coquille a été écrasée, mais que lui est toujours vivant, est-ce qu'on peut juste le mettre dans une coquille neuve ? Merci.
Bonsoir Eva, on aime beaucoup ta question au petit bateau parce que Eliane particulièrement est traumatisée quand on marche après une pluie par exemple et qu'on entend, c'est horrible. Donc Eva demande à Jean-Claude Bonnet remettre un escargot en admettant qu'on en est dans une coquille neuve.
Il n'y a rien qui empêche de mettre l'escargot dans une coquille neuve, mais il ne va pas y rester parce que dès qu'il va étaler son pied, il va sortir puisqu'il n'y a plus de muscles columellaires qui vont le rattacher à sa coquille. Ensuite, il va mourir malgré tout, parce que s'il sort de sa coquille, il va être sujet au froid, à l'humidité, au vent, au soleil. Donc, résultat, il va mourir à brève échéance, par déshydratation, soit par excès d'humidité.
Parce que Jean-Claude Bonnet, l'escargot dans sa coquille, c'est pas comme nous dans la maison. Il y a une partie de son corps qui est attachée à la coquille.
Absolument. Il y a un muscle qui le rattache à l'apex, qui est la partie pointue de la coquille, souvent.
Apex.
Apex, oui.
Il sort de son œuf avec sa coquille, c'est ça ?
Absolument. Donc, depuis le début, le muscle s'est développé en même temps que la coquille.
Et dans toute sa vie, il n'a jamais changé de coquille ?
Absolument. Mais s'il n'est qu'un tout petit trou dans sa coquille, par contre, il va pouvoir la réparer, sa coquille. Parce que quand il mange, il va stocker du carbonate de calcium. Et dès qu'il aura un petit trou dans sa coquille, ou même qu'il la fracasse un petit peu, il va prendre dans son corps le calcaire pour réparer sa toiture.
C'est génial. Donc, il fabrique le matériel de construction ?
Oui, il va stocker du calcaire dans son foie et son pancréas. Ça s'appelle l'hépatopancréas. Ce que les gens souvent appellent le tortillon ou le derrière, vous voyez, qu'ils vont pas consommer, mais il s'agit pas de l'anus, il s'agit du foie et du pancréas. Et c'est à l'intérieur de ces organes que l'escargot va stocker des petites granules de calcaire qui lui serviront à réparer sa toiture s'il en a besoin.
C'est pour ça que les cosmétiques à base de bave d'escargot sont excellents pour les rides. Ils nous réparent la peau de la même manière que l'escargot se répare sa coquille. Non, sans rire, hein, ça marche très bien. Jean-Claude Bonnet a créé et dirigé l'unité Hélicicole, oui, c'est comme ça qu'on dit, Hélicicole avec un H au début, de l'INRA.
Il avait trouvé sa place, assis au chaud tout au fond de la classe, assoupi derrière son livre, lui qui se voyait vivre une autre histoire. Il faisait le minimum, pendant qu'on se cherchait un uniforme, les mêmes chaussures et le même blouson, comme les grandes gueules de la pension. Mais si on pleurait à la maison, dès qu'un professeur haussait le ton, lui se foutait de l'autorité, de leurs conseils avisés. Quand il lui disait, si tu veux réussir, contrôle ta samba, il faut te ressaisir. Contrôle ta samba, oui tu dois réagir. Contrôle ta samba. Mais la samba, ça ne se contrôle pas. Deux années au pensionnat, à gribouiller dans son agenda. J'étais pas assez intelligent pour le trouver intéressant. Puis le bac et les bancs de la fac, pour un boulot pourri à la Fnac. Un petit chef qui pensait changer le monde, a donné des ordres à la ronde. Et qui lui disait, si tu veux t'enrichir, contrôle ta samba, il faut te ressaisir. Contrôle ta samba, ou bien sinon je te vire. Contrôle ta samba, mais la samba, ça ne se contrôle pas. à 2000 bornes du premier métro. Je vois un mec qui vit sa vie comme il en a envie et ça me fait rêver. Lui qui regardait les avions passer quand j'avais peur de me faire engueuler. Avait déjà son projet en tête en regardant par la fenêtre. Il se disait, j'ai d'autres désirs.
Contrôle ta samba.
Que celui d'obéir.
Contrôle ta samba.
Un jour je vais partir.
Contrôle ta samba.
Car la samba, ça ne se contrôle pas.
Contrôle ta samba. 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 Contrôle ta samba.
C'était Séverin et Catherine, contrôle ta samba. C'est drôle parce que pendant la chanson, il y avait les filles en régie qui faisaient une espèce de drôle de danse, pas vraiment une samba. En fait, je viens d'apprendre que c'est parce que il paraît qu'elles ont des nouvelles chaises et elles maîtrisent pas très bien encore la balance, le dossier, le niveau. On frôle le mal de mer ici.
Les petits bateaux sur France Inter.
Pour poser une question, vous le savez, on fait le 01 56 40 43 57 et on tombe sur un répondeur.
Et puis j'ai 6 ans. Je voulais savoir pourquoi on ne peut pas se marier entre cousin et cousine. Merci.
C'est pas extrêmement clair, mais c'est extrêmement intéressant ta question, Antoine. Pourquoi on ne peut pas se marier entre cousin et cousine, Evelyne Ayer?
Alors en fait, on ne peut pas se marier entre cousins et cousines parce que souvent, donc si on se marie entre cousins et cousines, malheureusement, ça peut faire, entre guillemets, apparaître des maladies. Parce qu'en fait, on sait qu'on est tous porteurs de gènes qui peuvent être impliqués dans des maladies, mais c'est des gènes qu'on dit récessifs. C'est-à-dire, ils s'expriment que si on l'a en double copie, c'est-à-dire si on le reçoit à la fois de son père et à la fois de sa mère. Et donc, si on imagine que, par exemple, vous avez un grand-père qui, comme tout le monde, porte des maladies génétiques récessives, eh ben, il peut par hasard les transmettre à un fils et à une fille. Et si le fils et la fille se marient, eh ben, par hasard, leur enfant peut porter deux copies de ce gène récessif et donc être malade. Donc là, j'ai pris un exemple. C'est sûr que nous, on ne se marie jamais dans nos sociétés entre frères et sœurs. Mais c'est un peu la même chose entre cousins, c'est-à-dire entre cousins, on peut très bien, les deux personnes, le père et la mère, peuvent porter tous les deux ce gène de maladie de manière récessive, c'est-à-dire qu'eux, ils n'ont rien, mais leur enfant peut recevoir les deux copies et donc lui être malade. C'est pour ça qu'on déconseille en général de se marier entre cousins-cousines, entre oncles et nièces, entre frères et sœurs.
La reine Cléopâtre, la reine égyptienne Cléopâtre a épousé son frère, même je crois ensuite encore un autre frère. Finalement, vous pensez que c'est récent dans l'humanité cette interdiction? Vous pouvez le savoir, vous?
Alors en fait, on sait qu'il y avait des cultures avant où effectivement il y avait beaucoup de mariages entre frères et sœurs. Et en fait, dans ce cas-là, il y a un phénomène qu'on appelle de purge. C'est-à-dire, c'est comme si quand on fait ça un grand nombre de générations, petit à petit, les maladies, ce qu'on appelle ce fardeau génétique, donc ces maladies récessives, petit à petit sont éliminées. Donc ça, c'est une hypothèse. Mais bientôt, avec les données génétiques, on pourra regarder si c'est vrai ou pas.
Evelyne Ayer est professeure en anthropologie génétique au Muséum national d'histoire naturelle et elle a dirigé l'ouvrage « Une belle histoire de l'homme » édité chez Flammarion. En France, me dit Marjorie, on a le droit d'épouser son cousin ou sa cousine, mais ce n'est pas recommandé. Recommandé par qui? Je ne sais pas. Ah, plus clair. En revanche, me dit-elle, Einstein a épousé en seconde noce sa cousine Elsa. Oui, sa cousine Germaine.
Bonjour, je m'appelle Jules, j'ai 5 ans et demi. Je voudrais savoir pourquoi on met des produits chimiques dans les champs. Au revoir, à bientôt.
Ben dis donc, Jules, tu parles drôlement bien. Pourquoi on met des produits chimiques dans les champs, demande Jules. Jean-Marc Jancovici, vous avez 3-4 minutes pour lui répondre.
Alors, dans les champs, aujourd'hui, on met deux grandes familles de produits chimiques. La première s'appelle des engrais. Alors les engrais, c'est quoi? C'est des éléments que la plante ne va pas trouver dans l'air ou bien éventuellement dans les matières organiques du sol et qu'il faut lui amener en plus. Alors c'est des phosphates, c'est de la potasse, c'est des engrais azotés. Historiquement, ces engrais, ils étaient amenés par le caca des divers animaux d'élevage. Et depuis qu'on n'a plus assez d'animaux d'élevage ou qu'ils ne sont pas au bon endroit, plus exactement, surtout ça, eh bien, on a remplacé leur déjection, donc leur caca, par des engrais qu'on fabrique dans des usines. Pour ceux d'entre vous qui s'en souviennent, AZF, l'usine qui a explosé près de Toulouse, c'était une usine d'engrais. La deuxième grande famille de produits chimiques qu'on met dans les champs, c'est ce qu'on appelle des phytosanitaires, ou en français plus courant, des pesticides. Et c'est destiné à lutter contre ou des bêtes ou des plantes qui font concurrence à ce qu'on cultive. Alors, ou bien c'est des herbicides. On se dit, les mauvaises herbes, elles sont là, elles prennent les nutriments à la place du blé ou du maïs et on n'a pas envie, donc on va les éradiquer. Et pour ça, on met des herbicides. Ou bien il y a des insectes qui sont susceptibles d'attaquer la plante qu'on cultive. Et à ce moment, on met ce qu'on appelle des insecticides. Et puis on a également des champignons microscopiques qui peuvent embêter les plantes et dont certains, du reste, autrefois, pouvaient être très toxiques. Par exemple, l'ergot du seigle, c'est un petit champignon et qui pouvait tuer les gens qui mangeaient le seigle qui avait été contaminé. Et à ce moment, on répand dans les champs des produits qui ces petits champignons. Alors, tous ces produits-là, ils permettent aux plantes de se libérer de leurs parasites ou de leurs concurrents pour très peu cher, parce que sinon, on devrait embaucher des gens pour faire ça à leur place. Donc, on devrait embaucher des gens pour enlever les mauvaises herbes, on devrait embaucher des gens pour écraser les pucerons un par un, etc. Et ça coûterait évidemment beaucoup plus cher. La contrepartie, c'est qu'après, on va trouver des traces de ces produits qu'on a utilisés dans l'environnement, voire dans les plantes. Et donc, si on ne veut pas ces produits dans les champs, en général, la contrepartie, c'est qu'on va les payer plus cher parce qu'on va devoir embaucher plus de monde pour s'en occuper. Je dis bien en général parce qu'il y a quand même certains types de cultures et certains modes d'organisation où c'est pas vrai. Mais en règle générale, et notamment pour les céréales, ce que je dis est malheureusement quand même à peu près vérifié.
Et y a-t-il un équilibre qui peut être détruit ? Par exemple, si on tue des oiseaux parce qu'ils mangeaient les graines, mais que ces petits oiseaux tués ne mangent plus après des parasites, donc les parasites prolifèrent, comment ça se passe cet équilibre ?
C'est ce qu'on appelle les services écologiques. Il y en a un qui est bien connu, par exemple, c'est que la mécanisation de l'agriculture a poussé au remembrement, parce que le tracteur n'aime pas faire le tour des haies et faire le tour des arbres et faire le tour de n'importe quoi. Donc on a supprimé toutes les haies qui séparaient les parcelles et on a fait la brousse et ces grands champs séparés par rien du tout.
Sans haies, sans oiseaux, sans...
Voilà, sans haies, sans oiseaux, etc. Et alors maintenant, il y a des endroits où on se dit qu'on est allé trop loin. Et donc, on est en train de remettre des endroits où les oiseaux peuvent s'installer, donc en pratique des haies, parce qu'ensuite, ces oiseaux vont aller manger justement les pucerons, les chenilles, etc. Enfin, des tas de petites bêtes que les agriculteurs n'ont pas envie de voir dans leurs champs. La solution de facilité jusqu'à maintenant était de faire sans. C'est-à-dire, on a supprimé les haies et on a mis des insecticides et on se disait que tout allait bien. Voilà, et on fait simple. Ce qu'on est en train de regarder de plus en plus près quand même maintenant, c'est de faire un peu moins simple, mais qui correspond à un meilleur équilibre à moyen et long terme. Donc, on va dire pour quand l'enfant qui a posé la question aura n'importe quoi entre son âge et mon âge, eh bien, on se dit que c'est une meilleure affaire de recourir plus fortement aux services naturels. Alors, ça peut être remettre des haies, ça peut être mettre des prédateurs naturels, des insectes dont on ne veut pas, c'est-à-dire qu'on dissémine d'autres insectes qui vont les manger, ou bien on dissémine des insectes stériles, parce que du coup, les insectes pas stériles s'accouplent avec des insectes stériles, et donc il n'y a pas de chenilles, pour etc. Et donc toutes ces techniques sont des techniques qui aujourd'hui ont plutôt quand même le vent en poupe, mais la culture dans le monde agricole est quelque chose qui bouge lentement. Quand les gens prennent des habitudes, on est tous pareils, on n'a pas tellement envie d'en changer, donc les pratiques évoluent très lentement.
Jean-Marc Jancovici est ingénieur de l'École Polytechnique. Il est consultant, enseignant, chroniqueur. Vous trouverez les titres de ses livres sur le site des Petits Bateaux.
The moment I was wishing, it's overnight. The minute minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. Slow down, never. I know now, I know better. I need it more than ever.
Vous aviez reconnu Parcelle et Daft Punk sur France Inter, où vous écoutez Les Petits Bateaux, l'émission où des enfants, parfois grands, posent des questions et où des spécialistes répondent.
Oui, bonjour, Myriam de Pontvel dans l'Ain. J'ai 43 ans et je me pose encore, en regardant les bébés, une question. Voilà, j'aimerais savoir pourquoi les bébés bâillent autant, alors que finalement, ils dorment autant qu'ils en ont envie. Je vous remercie de me répondre. Au revoir.
Mais c'est vrai, Myriam, merci pour votre question. Docteur Waluzinski, médecin, auteur de travaux sur le bâillement. Elle a raison, les bébés bâillent et pourtant ils ne sont pas obligés d'assurer une veille.
Non, mais le bâillement commence très tôt puisque c'est un comportement qui apparaît vers la 12e semaine de la grossesse.
Ah, déjà.
Qui augmente de fréquence pour être entre 23 et 26 semaines, la période où nous bâillons le plus de toute notre vie, environ 60 fois par 24 heures quand nous sommes fœtus. Et le bâillement va être encore très fréquent chez le nouveau-né. Et en fait, il faut regarder en parallèle la structure du sommeil. Les bébés ont un sommeil particulièrement riche en sommeil paradoxal et peu en sommeil profond. Et le temps de durée de sommeil diminue progressivement. On sait tous qu'un bébé a besoin de beaucoup dormir quand il est tout jeune et que dans les deux premières années de la vie, le temps de sommeil va se réduire, la répartition du sommeil dans la journée va se modifier avec la raréfaction des siestes. Et puis, quand on va à la grande école, on ne dort plus l'après-midi. Et là, on bâille beaucoup moins. Donc, il faut regarder en parallèle l'évolution de la structure du sommeil qui se modifie pendant les deux premières années de la vie et la raréfaction progressive du nombre de bâillements, sachant que ce comportement est associé au rythme de la vigilance. Donc, comme le bébé dort beaucoup, par plusieurs épisodes, il a plusieurs éveils, donc il bâille à ce moment-là, et il lutte plusieurs fois dans la journée contre son sommeil, et il bâille plusieurs fois.
Donc en fait, le bâillement est un mouvement qui survient au moment des transitions.
Exactement, c'est un comportement transitionnel, c'est-à-dire on bâille quand on se réveille, on bâille quand on a besoin de lutter contre la pression du sommeil le soir. C'est un comportement qui a certainement un rôle très important dans la maturation du système nerveux et dans son élaboration de ce qu'on appelle la myélinisation, c'est-à-dire la fabrication de l'isolant qu'il y a autour de nos nerfs comme un fil électrique.
Donc si je comprends bien, docteur Olivier Waluzinski, laissons les enfants bâiller.
Laissons-les dormir déjà, c'est très important qu'ils aient leur rythme de sommeil spontané. Et laissons-les bâiller, ça leur fait du bien et ils pendiculent, ils s'étirent très agréablement et quand on voit le plaisir que ça procure, imitons-les.
Ils pendiculent.
Ils s'étirent de leurs quatre membres au cours d'un bâillement, comme le chat, le chien que vous avez peut-être chez vous. Et ça, le joli mot d'une pendiculation.
Les petits bateaux sont terminés pour ce soir. Nous reviendrons dimanche prochain à partir de 19h30. Merci à Pauline Laverdure, à Marjorie de Voucou, à Eliane Girard et à Jean-Baptiste Audibert. N'oubliez pas de faire un tour sur notre site ou bien de podcaster cette émission.